Vous êtes sur RTL.
Toute l'info est dans RTL Soir. Bonsoir Stéphane Carpentier.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir pour deux heures d'info en direct. Pour tout savoir et tout comprendre, RTL Soir de ce vendredi 24 janvier. Énième jour de grogne dans notre pays contre la réforme des retraites. Alors que le texte du projet de loi est passé ce matin par la case Conseil des ministres, les syndicats ne lâchent rien et les opposants politiques non plus. Ambiance tendue. Alors Emmanuel Macron hausse le ton, s'en prend à ceux qui attisent la violence politique et sociale. Aller en dictature, lance le président. À ceux qui parlent de monarchie ou assurent que nous ne sommes plus en démocratie, les opposants lui renvoient la balle. Ambiance tendue donc, que va commenter ce soir en direct à 18h15 l'ancien ministre du Travail Éric Woerth, le député LR de l'Oise. La grogne et Emmanuel Macron au cœur également de la semaine politique d'Alain Duhamel tout à l'heure à 18h50. Soyez tous les bienvenus. RTL Soir, première édition avec vous, Sophie Orange, bonsoir.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Et ce jour de manif.
Avec la CGT qui annonce à l'instant 1 300 000 manifestants dans toute la France, des cortèges dans plusieurs dizaines de villes. À Paris, la dispersion se poursuit dans le calme, place de la Concorde. 6 morts dans une fusillade en Allemagne, la piste familiale est privilégiée. Facebook victime d'une attaque virale, il ne faut surtout pas ouvrir un message indiquant « c'est bien toi » dans la vidéo. Tous les conseils à suivre. Et puis le restaurant de Paul Bocuse rouvre ses portes après 3 semaines de travaux et la perte d'une étoile, mais les demandes de réservation affluent. La Bourse de Paris termine en hausse de 0,88%. Le CAC s'établit à 6024 points. Et puis les courses à Pau, il fallait jouer le 2, le 11, le 4, le 14 et le 10.
Les rendez-vous à ne pas manquer d'ici 20h. L'acteur Lambert Wilson prend la parole tout à l'heure dans une demi-heure à l'affiche du thriller excellent Les Traducteurs. C'est mercredi prochain au cinéma. Et puis le vendredi, on défait le monde. C'est à partir de 19h15. Avec Cyprien Signy et compagnie. Le temps, bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Alors calme, mais avec de la grisaille.
Ah, ça sera très gris demain sur la moitié nord du pays. Nombreux nuages bas demain matin et des brouillards localement assez denses et même un petit peu de pluie sur la Bretagne. Ça devrait quand même s'éclaircir dans l'après-midi entre le nord-est et le centre Val-de-Loire, mais ça restera gris dans le Val-de-Saône. Et puis sur la moitié sud, après dissipation des brouillards, ce sera nettement plus agréable, plus lumineux, excepté près du golfe du Lion jusqu'au sud du massif central. Là, nous aurons un ciel gris avec un petit peu de pluie. Puis les températures repartent à la hausse. On aura encore quelques gelées, mais faibles demain matin. Moins 2 degrés à Mulhouse, 1 degré à Lyon, 9 à Bastia, de 5 à 16 dans l'après-midi, 5 à Lille, 7 à Paris et Grenoble, 10 degrés à La Rochelle et encore un maximum de 16 degrés à Ajaccio.
Merci Patricia.
RTL Soir.
Une nouvelle journée de mobilisation donc dans toute la France contre la réforme des retraites. Le texte était présenté ce matin au Conseil des ministres. À Paris, le cortège est parti à 11h de la place de la République pour rejoindre la place de la Concorde en face de l'Assemblée nationale. Entre 350 et 450 000 personnes, selon la CGT, 1 300 000 dans toute la France. Pas de chiffre officiel pour l'instant du ministère de l'Intérieur. À Paris, tout se passe dans le calme. On retrouve sur place Aurélia Valarié. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez rencontré des manifestants qui ne lâcheront rien.
Oui, on a vu beaucoup de manifestants motivés aujourd'hui, malgré le froid. Ils ont marché presque 8 heures pour arriver ici, place de la Concorde, un lieu symbolique pour beaucoup d'entre eux.
Bah, c'est où Louis s'est fait guillotiner déjà. On espère qu'ils nous entendent au palais de l'Elysée, mais juste à côté là.
Hein ? Quand on voit tous ces gens qui sont réunis, il y a des gilets jaunes, il y a des syndicats, il y a tout le monde en fait. Non, c'est une très très belle image, une belle image de Concorde.
Pour Grégory, cheminot et gréviste depuis le premier jour, cette 7e journée de mobilisation est loin d'être la dernière.
Bah, au bout de 51 jours de grève, je vous dirais qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, qu'on ne va pas lâcher le bout de gras. Ça durera le temps que ça durera. Et là, pour le moment, vu la politique du gouvernement, bah, ça va se durcir. Ça va se durcir. Et dans le discours et dans la manière de faire.
Pour lui, pas de doute, il sera présent dans 5 jours, le 29 janvier, pour le prochain rassemblement. En attendant, ici, place de la Concorde, à part les forces de l'ordre qui sont toujours présentes, il reste seulement une dizaine de manifestants. La circulation est même en train d'être rétablie.
Aurélia Valarié, en direct de la place de la Concorde pour RTL. Au total, 111 000 personnes ont manifesté dans une quarantaine de villes hors Paris, selon les chiffres des différentes préfectures. 9 000 opposants, par exemple, à Lyon, 8 000 à Marseille ou 4 000 à Rennes.
Un conseil des ministres ce matin, Sophie, où il a donc été question de la réforme réforme des retraites, mais pas seulement.
Le président de la République en a profité pour faire passer un message d'agacement et de fermeté. Il avait dénoncé déjà ce matin sur Radio J le climat politique et social. Certains laissent croire que nous ne serions plus une démocratie, mais une forme de dictature. Il l'a répété un peu différemment devant les ministres. Des propos résumés par la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Le président de la République a également dénoncé les actes de violence et la radicalité de certains blocages. Et il a appelé à ce qu'il y ait la plus grande fermeté à l'égard de leurs auteurs. La haine de l'autre, l'intimidation de l'autre, au prétexte d'une divergence, qu'elle soit politique ou syndicale, ne peuvent en aucun cas être acceptables. Ce sont les mots du président de la République.
Des mots qui ne plaisent pas à ce manifestant lillois.
S'ils continuent à ne pas nous écouter, est-ce que ça ne va pas devoir se durcir? Il faudrait qu'ils soient raisonnables aussi et qu'ils mettent, ils arrêtent tout et qu'ils disent « Allez, on écoute vraiment les syndicats et on prend le temps de voir si on ne peut pas faire autre chose. » Parce que là, l'entêtement, après, ça risque d'arriver à des extrêmes d'un côté comme de l'autre.
Réaction micro-RTL de Camille Formant à Lille. Bonsoir Vincent de Rosier.
Bonsoir.
Service politique de RTL. Pourquoi Emmanuel Macron emploie-t-il des mots aussi forts maintenant?
Pour gagner la bataille de l'opinion, encore et toujours, c'est l'obsession d'Emmanuel Macron qui ne parvient pas à convaincre les Français de l'utilité de sa réforme. Je vous rappelle notre baromètre BVA-RTL. 45% des Français pensent que les réformes économiques menées depuis le début du quinquennat ont détérioré la situation de la France. Le travail de conviction s'annonce donc périlleux, d'autant qu'en haut lieu, on craint que les débats très médiatiques à l'Assemblée qui débutent le mois prochain ne provoquent un rejet encore plus massif de cette réforme. Deuxième raison, pour gagner cette fameuse bataille de l'opinion, il faut discréditer les opposants. Emmanuel Macron, avec ses mots très durs, veut faire passer les insoumis de Jean-Luc Mélenchon et les syndicats les plus radicaux pour des jusqu'au-boutistes. Enfin, en appelant à la plus grande fermeté contre les auteurs de violence, le chef de l'État veut parler à l'électorat de droite, très attaché aux questions de sécurité et d'ordre, et dans le même temps, contrarier les Républicains qui entendent mener une guerre d'amendement à l'Assemblée nationale.
Vincent De Rosier pour RTL.
Dans le reste de l'actualité, le nombre de pays touchés par le coronavirus augmente.
Un deuxième malade a été confirmé aux États-Unis, pas de cas avérés en France, mais un homme qui rentrait de Chine a été pris en charge par SOS Médecins à Bordeaux. Il a été placé en observation, des analyses sont en cours. 830 personnes contaminées au total, 26 morts uniquement en Chine, selon le dernier bilan officiel. Les Chinois qui doivent apprendre à vivre avec ce risque. Le docteur Philippe Klein travaille à Wuhan depuis plusieurs années. C'est le berceau de l'épidémie.
Tous les Chinois doivent porter des masques dans les lieux publics. C'est assez étonnant parce qu'habituellement, les Chinois portent peu de masques hein, par rapport aux Japonais, par exemple. Alors, on vit quand même. Hein. On est allé au supermarché faire des courses. Le supermarché était bondé. Et maintenant, la question est de savoir comment la ville sera approvisionnée. On ne trouve plus de légumes.
Vous êtes médecin. Il y a une véritable inquiétude.
Oui, forcément. On vit cela de l'intérieur, au jour le jour. Le problème, c'est qu'il y a aussi pas mal de rumeurs qui peuvent amplifier l'anxiété de certains. En fait, ce sont vos mains, lorsqu'elles sont contaminées, vous mettez votre main à la bouche. Ça, c'est vraiment la cause de contamination la plus importante. Qui nécessite donc d'avoir une hygiène importante et surtout un lavage très régulier des mains. Ça, c'est primordial.
Témoignage recueilli par Pierre Julien pour RTL.
Vous restez bien avec nous dans un instant. La suite du journal de Sophie Orange avec une grande prudence qui s'impose si vous utilisez Facebook, car un virus est à l'attaque. A tout de suite.
RTL Soir, il est 18h08. RTL Soir.
Chez Optical
Center.com. 18h09, RTL Soir avec Stéphane Carpentier et la suite du journal de Sophie Orange.
Et donc attention, si vous avez un compte Facebook, un virus sévit depuis quelques heures.
Vous recevez une vidéo, a priori banale, on vous demande de l'ouvrir, sauf que c'est l'occasion pour les hackers de récupérer vos données personnelles. Le virus se propage ensuite en envoyant automatiquement cette même vidéo à vos contacts. La prudence s'impose donc, conseille Jérôme Billois, expert en sécurité chez Wavestone.
L'objectif des attaquants derrière, c'est de prendre le contrôle de votre machine, déjà de vous voler aussi vos identifiants, pour pouvoir ensuite rebondir sur tous vos autres contacts Facebook et que vous deveniez vous-même une personne qui relaie l'attaque. Et puis une fois après que le cybercriminel est installé sur votre ordinateur, ils peuvent faire plein de choses, vous voler des informations, installer d'autres virus, etc., etc. Le conseil numéro un, c'est toujours d'être très précautionneux. Même si on reçoit un message de quelqu'un qu'on connaît, si ce message y paraît étonnant, surprenant, eh bien on contacte la personne et on lui dit « mais est-ce que c'est bien toi qui m'as envoyé ça ?» Et conseil numéro 2, c'est d'avoir son ordinateur à jour. Conseil numéro 3, c'est aussi avoir un antivirus sur son ordinateur, lui-même à jour, pour finalement eh bien, pouvoir bloquer l'attaque avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur.
Jérôme Millois, expert en cybersécurité au micro RTL de Sophie Jousselin. 500 kilos de cocaïne découverts dans un chargement de bananes à Rungis. Les cartons venaient de Colombie. Une enquête pour importation de stupéfiants en bande organisée a été ouverte. En Allemagne, 6 morts dans une fusillade dans le sud-ouest du pays. L'auteur présumé a été interpellé. Delphine Darbollier, vous êtes à Berlin pour RTL. Et les victimes font partie de la même famille.
La tuerie a eu lieu lors d'une rencontre familiale dans une petite auberge de Rot am See. Il était 1h moins le quart lorsque les coups de feu ont été entendus. Arrivée sur les lieux, la police a découvert 6 cadavres ainsi que des blessés à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. 6 personnes donc tuées par balles, 3 hommes et 3 femmes, tous des adultes et tous de la même famille. Parmi eux se trouvent notamment le père et la mère du tueur présumé. L'auteur de cette fusillade serait un jeune homme de 26 ans, un Allemand qui a lui-même averti la police après son acte et qui possédait un port d'armes pour pratique sportive. L'homme a reconnu les faits et n'a pas résisté lors de son arrestation. Il continue d'être entendu et questionné par les enquêteurs. Près de 5 heures après la fusillade, beaucoup de questions restent toutefois sans réponse, à commencer par les motifs de cette tuerie. La police dit ne pas avoir d'informations à ce sujet.
Delphine Darbollier, la correspondante de RTL en Allemagne.
Sophie, le retour des clients dans le restaurant de Monsieur Paul près de Lyon.
Paul Bocuse, bien sûr. L'auberge du Pont à Collonges-au-Mont-d'Or est restée fermée pendant 3 semaines pour rénovation. Au même moment, ce temple de la gastronomie a appris qu'il perdait sa 3e étoile après 55 ans au sommet. Un coup dur pour toute l'équipe, mais les gourmets venus déguster la canette des dombes aux agrumes ou les quenelles de cendre au homard sont toujours là. Voilà de quoi redonner le moral aux serveurs et aux cuisiniers, Nerissa Imani.
Pour la première fois depuis 55 ans, la plaque dorée sur la porte d'entrée n'affiche plus les 3 étoiles. Mais qu'importe, les salles sont flambant neuves, le personnel motivé. Pas le temps de s'apitoyer pour Vincent Leroux, directeur de la maison Paul Bocuse.
Bien sûr, un peu blessé sur le moment, mais vous savez, on a une équipe soudée, forte. Pour la réouverture, on est très content parce que le restaurant est complet pour tout le week-end.
La perte d'une étoile a même gonflé les réservations avec plusieurs mois d'attente. Et pourtant, Jérôme, le fils de Paul Bocuse, n'a qu'un objectif.
Toujours rechercher l'excellence, la perfection sur les cuissons, sur les ajustements des choses.
Et justement, au menu.
Nos quenelles, homards, sauce champagne, la soupe aux truffes, on a toujours le loup en croûte.
Christophe Muller, meilleur ouvrier de France.
Le rêve idéal, c'est imaginer dans un an, on reprend l'étoile. Ça serait une fête que Monsieur Paul pourra assister de d'où il est.
Le menu n'a pas changé, comme l'enthousiasme des clients. Jean-Claude mange ici tous les 2 mois.
On aime encore plus l'endroit qu'avant. On vient chez Bocuse pour la cuisine, on n'y vient pas parce qu'il a 3 étoiles.
On voit arriver dans l'assiette ce qui est écrit sur la carte. Et ça, c'est devenu rarissime. Il n'y a bientôt plus que dans des maisons comme ça.
L'équipe espère retrouver sa 3e étoile, notamment grâce à un champion du monde des desserts, dernier arrivant de la maison, Benoît Charvet.
Il faudrait qu'on aille essayer, mais...
Avec plaisir.
Un petit peu cher. Le reportage de Nerissa Imani à Lyon pour RTL. Le foot féminin a encore un peu de chemin à parcourir pour s'imposer dans un monde bien masculin. Le week-end dernier à Laval, les filles ont dû interrompre leur match. Pourquoi ? Pour que les garçons commencent à l'heure, Nicolas Burnand.
Oui, ce jour-là, l'équipe féminine de Spé affronte celle de Laval-Bourny, un club amateur du département voisin de la Mayenne. Tout se passe bien sur le terrain jusqu'à la mi-temps et l'intervention du délégué de la fédération, raconte Philippe Gagneux, l'entraîneur.
À la fin des 45 minutes, on rentre au vestiaire. 10 minutes après, même pas 5 minutes, il y a quelqu'un qui frappe à la porte du vestiaire et c'était le délégué qui venait m'annoncer que le match est arrêté. Puisque faut un délai entre votre match et le match de national. C'est le règlement, c'est comme ça. Franchement, c'est décevant, quoi.
Le règlement du championnat exige un temps d'échauffement bien précis avant d'entamer le match suivant. Hélène, la capitaine, aurait préféré ne pas laisser la place aux garçons.
On est toutes frustrées et en colère. Les U19 auraient pu venir nous dire bah, « Écoutez, nous, dans ce cas-là, on n'est pas à 30-45 minutes près. Quoi. On aurait pu décaler le match, mettre à notre place, avoir fait le déplacement, se lever à 8h le matin et puis la journée qui est gâchée derrière. On y retournera pour le gagner, ça c'est sûr. »
Un recours a été déposé. Le match devrait être prochainement rejoué.
Le récit de Nicolas Burnand pour RTL. Puis en tennis, Roger Federer a eu chaud à l'Open d'Australie. 5-7, 4 heures de combat face au 47e joueur mondial pour finalement s'imposer et se qualifier pour les 8e de finale. J'étais déjà en train de penser à comment j'allais expliquer ma défaite en conférence de presse. Et finalement, il a gagné. En revanche, c'est déjà terminé pour Serena Williams, qui ne remportera pas son 24e tournoi du Grand Chelem, et également pour la japonaise Osaka, tenante du titre.
Absolument, elle a perdu contre une jeune américaine de 15 ans seulement. Vous imaginez un peu la future star.
Coco
Gauff.
Go.
Ouais, je crois qu'on n'est pas mauvais. On va vérifier.
À nous deux, je crois que c'est ça.
Je crois que c'est ça. Vous revenez à 18h30 pour nous informer. Merci à Sophie Orange. Dans un instant, on va accueillir Éric Woerth, l'ancien ministre du Travail, le député des Républicains de l'Oise. Il va partager avec nous, bien sûr, et nous donner son sentiment sur cette grosse journée d'actualité, ce vendredi de défilé, ce projet de loi de la réforme des retraites en Conseil des ministres et Emmanuel Macron qui s'en prend à ceux qui parlent de dictature. Pour parler de la France, Éric Woerth, notre invité, juste après ceci.
18h16, RTL Soir. L'Europe signe les produits de ses terroirs avec le kiwi de l'Adour, reconnu par le label IGP, indication géographique protégée. La chair délicieusement ferme du kiwi de l'Adour révèle un goût subtilement acidulé et fruité. De décembre à avril, petits et grands, laissez-vous tenter par le kiwi de l'Adour. Campagne financée avec le concours de l'Union européenne.